je suis Mathéo, je suis un artiste du groupe Chinese Man et j'ai fondé avec mes deux acolytes le label Chinese Man Records. Voilà.
Juste, tu veux préciser, même au sein de Chinese Man, qu'elle est déjà aussi dans ce projet-là, ta fonction, ton rôle un peu au niveau du collectif.
Dans le collectif, en fait, on est trois à avoir monté Chinese Man il y a presque 20 ans. Et on est tous les trois producteurs, on est deux DJ et un beatmaker. Enfin, en gros, tout le monde fait un peu la même chose quand on fabrique de la musique, quoi. Mais après, on a une culture hip-hop, électro, drum and bass. Enfin, voilà, plutôt cette veine-là, quoi. Et en fait, on a développé le projet en même temps que le label. Donc, c'est un espèce de gros collectif où les artistes avec qui Chinese Man a travaillé, après, ont aussi signé souvent sur le label. Donc voilà, c'est un gros petit label indépendant. Voilà.
T'as sorti ton deuxième album solo fin mai. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ce deuxième projet en solo?
En fait, en parallèle de Chinese, on a toujours plus ou moins fait des projets à côté. Donc moi, c'est vrai que je faisais pas mal de sons, même en tournée, comme on a beaucoup été sur la route avec Chinese. Du coup, j'avais un peu développé ce truc-là et j'avais envie de travailler avec des musiciens. Ce qu'on fait aussi avec Chinese, mais d'une manière un peu différente, puisque dans Chinese Man, c'est souvent le sample qui, en fait, initie le projet. Et là, moi, j'avais envie vraiment de commencer à partir de compos et de musiciens avec qui je pouvais aussi collaborer. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets annexes, comme de la musique à l'image et tout. Donc j'avais un peu un réseau d'artistes avec qui je voulais travailler. Et on s'est un peu enfermé, on a fait plusieurs sessions de travail. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ce serait cool de faire un vrai truc, quoi. Par là est passé le confinement. Donc j'ai eu vraiment du temps pour travailler sur la prod et tout préparer. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de le transformer d'une façon plus organique, donc je me suis vraiment entouré de gens qui avaient cette sensibilité-là aussi. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup, quoi.
Ouais, tu l'as travaillé pendant le confinement, d'ailleurs il s'appelle Home.
Ah oui, il y a eu deux projets, ouais.
Le maxi, quoi.
Ouais, le premier, ouais.
Du coup, si tu veux en parler de ces peut-être volets ou diptyques, de la façon dont tu l'as envisagé.
Alors en fait, Home, effectivement, c'est sorti vraiment de cette période-là où on a tous passé beaucoup de temps à la maison. Et c'était beaucoup plus axé sur de la production beatmaking, quoi. Donc, je sais pas, j'ai dû produire peut-être une ou deux maquettes par jour pendant tous ces temps-là de fabrication et de temps chez nous. Et puis en fait, au final, j'ai gardé assez peu de titres, quoi, pour Home. Mais j'avais envie d'avoir ce volet-là qui était très beatmaking. Et puis derrière, de basculer sur Matteo Enbro, qui était, voilà, plus la partie plus organique, avec des musiciens, un côté un peu plus live. Donc ouais, c'était un peu une manière de s'exprimer de façon plus différente, quoi. Comme je produis souvent... de mon côté, j'avais envie de faire un volet très, on va dire, introspectif, un peu plus organique avec des musiciens. Et là, je bosse sur un truc qui est plus club, plus dance floor aussi, pour pouvoir jouer ça en DJ set aussi, quoi. Donc voilà.
Là, tu parlais du confinement, du Covid. Maintenant, tu voyages pas mal en Inde, en Amérique du Sud, etc. Comment ça impacte ton processus créatif?
En fait, ce qui m'a mis un peu, on va dire, le pied à l'étrier, c'est toutes les tournées qu'on a pu faire avec Chinese Man pendant ces 15 dernières années. On a eu beaucoup de chance, comme on a un projet qui est assez international, on s'est vraiment beaucoup baladé en Asie du Sud-Est, en Amérique, au sens large, quoi, États-Unis et Amérique du Sud. Une grosse partie de l'Europe, il y a des endroits où j'ai eu des coups de cœur, où il y a eu des rencontres aussi, avec des musiciens, avec des artistes, donc ça m'a donné envie de rebondir. Pour pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avec Chinese, qui sont plus longues à mettre en place, vu qu'on est très lent à produire avec Sly et Haiku, quoi. Et ce qui m'inspire, c'est plus que quand il y a une rencontre comme ça, après je me sens teinté de soit de la musicalité, soit de trouver une manière de mettre un peu mon prisme là-dedans. Et du coup, en général, les endroits où je vais, comme je sais que je peux être amené à y retourner, je me réorganise pour que, comme en Inde, là par exemple, c'est quasiment la cinquième fois que j'y vais, pour à la fois tourner en tant que DJ et aussi pour enregistrer avec des musiciens, avec des artistes que j'ai rencontrés. Et c'est sûr que ça influe vachement culturellement, chaque pays a un truc hyper fort dans la musique, donc ça m'impacte vachement. Et je pense que vraiment, c'est un des rôles du musicien, quoi, de faire ça aussi, quoi, d'avoir cette sensibilité-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui me parle vachement, quoi.
Comment justement tu travailles concrètement ces rencontres? Parce que qu'est-ce qu'on va chercher quand on est DJ et qu'on arrive sur une scène qui n'est pas forcément effectivement connue ou visible? Toi, ton idée, c'est d'aller dénicher, c'est d'aller dans la rencontre aussi musicale, c'est de travailler de quelle façon, comment ça nourrit aussi ton travail?
En fait, c'est plus par ramification, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le rôle de DJ qui fait que moi, j'amène, on va dire, ma lecture de la musique. Ça se passe toujours dans des événements, soit dans des festivals, soit dans des clubs où il y a aussi des premières parties, des parties après moi, et du coup il y a des rencontres qui se font à cet endroit-là. Il y a des gens qui jouent de la musique que je connais pas. Par exemple, là c'était le cas en Inde, il y a toute une grande vague de jeunes producteurs et productrices qui a aussi émergé issue du confinement, quoi. Et je prends des grosses claques, donc du coup j'essaie de connecter tout de suite après avec les producteurs et les productrices pour voir s'il n'y a pas des choses à faire ensemble, et donc je découvre aussi les gens comme ça. Et puis après, maintenant avec Internet, on garde le contact assez facilement. Et du coup, là, la tournée que j'ai faite en avril, ça m'a permis de rencontrer 4 artistes avec qui je vais travailler quand je reviens en octobre en Inde. Et je prends 4 jours de studio, donc j'enregistre, je bosse avec un producteur, avec une chanteuse. Et les liens se tissent comme ça. Et en tout cas, ce que je trouve assez fort, c'est que... ça permet aussi de créer des connexions dans l'autre sens, c'est-à-dire de pouvoir aussi inviter après les artistes avec qui, comme on l'a eu fait nous avec Chinese en Indonésie, à Yogyakarta, ou avec Toomy en Afrique du Sud, ou avec des artistes colombiens comme Layegros, ou voilà, de créer des ponts comme ça et des passerelles. Donc initialement, ça ressemble à un featuring classique, mais sauf que comme moi j'ai la part producteur, du coup ça vient aussi jouer sur la musique qu'on fabrique, quoi.
Et quels styles musicaux t'aimerais explorer dont t'as pas forcément l'habitude actuellement dans le futur?
Dans le futur, là, voilà, comme je disais, j'ai envie d'essayer un peu plus de faire des morceaux qui sont plus jouables, parce que tout ce que je fabrique en général est assez peu dansant, quoi. Même s'il y a une dynamique sur certains morceaux, mais là j'ai envie plus de m'essayer au côté plus dance floor et qui permet aussi de rassembler un peu plus. Donc il y a un des aspects qui est, je pense, de travailler aussi avec beaucoup de rythmique qui me parle, comme moi j'ai une bonne sensibilité avec le ball funk au Brésil, mais du coup il y a d'autres choses aussi en Inde qui font des ponts avec ça. En Italie, ça peut être par exemple des danses un peu anciennes qui ont une musique comme la tarentelle, ou du coup qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres formes. Et voilà, j'ai envie d'explorer un peu ça pour la suite, c'est-à-dire peut-être une sorte de c'est à mon sens, ça ressemble à ça, une encyclopédie un peu de formes rythmiques différentes que je peux intégrer avec derrière des arrangements qui font un peu écho à ça, quoi.
Yeah.
ce qui se passe dans le processus créatif, dans la rencontre et dans tout ce que ça t'amène toi après à travailler en studio en tant que producteur même. Ça m'interroge aussi de comment tu rends ça sur scène finalement, quel rendu tu proposes après tout ce processus, comment tu entends et appréhendes ça sur un rendu live et scénique.
Bah, en fait, on va dire que la grande fonction DJ, quand je dis grande fonction, c'est que au sens très large, pour moi, c'est justement à la fois de faire plaisir aux gens pour qu'ils passent un bon moment, mais aussi de les faire voyager, quoi. Donc, dans mes sets, il va y avoir à la fois du Brésil, à la fois de l'Inde, à la fois de l'Afrique, à la fois des choses, de Turquie, et de basculer, ça c'est vraiment aussi ma pratique, quoi, de basculer d'un univers à l'autre d'une manière qui soit assez harmonieuse pour que, on éveille à chaque fois un peu l'attention avec un morceau qui va faire écho à tout le monde parce que on connaît un petit peu, et puis le morceau d'après va être peut-être un peu moins connu mais peut-être plus underground, et du coup de glisser là-dedans ça permet d'attirer l'attention aussi là-dessus. Donc pour moi c'est un peu ça mon travail sur scène en DJ, quoi. Parfois je suis accompagné avec un MC pour dynamiser aussi certains passages, mais là en ce moment ce que j'aime bien c'est vraiment je fais des sets qui me font vachement voyager, quoi, où justement j'ai récupéré des sons un peu en Inde. Donc j'en joue quelques-uns, et puis il y a toute une vague là en ce moment, je trouve, avec l'Afrique du Sud, enfin de toute façon l'Afrique de façon plus large, mais où les influences Amapiano qui viennent aussi vachement comme ça. Enfin, il y a une porosité entre tous les espaces en ce moment qui est assez, assez intéressante. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire en DJ set, quoi.
Tu remixes tout ça en live, finalement ça reprend une dimension finalement à nouveau créatrice en live,
parce que je les remixe avec c'est des morceaux à part entière mais que je mixe avec d'autres choses, et donc de mixer par exemple un morceau brésilien avec on va dire une rythmique batucada sur un track plus électronique, c'est assez classique, mais par exemple enchaîner avec autre chose qui pourrait être la Turquie et le Brésil, ça n'a pas forcément d'écho sur le papier en termes de production, mais ça peut se mixer, et c'est le mariage que j'aime bien faire sur scène, quoi, quand j'y arrive, mais en général je me débrouille plutôt bien à faire ça.
Je repars sur un autre sujet qui est le clip du morceau Path, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu as participé à l'élaboration de ce clip?
Alors j'ai pas participé parce que c'est Fred et Annabelle qui sont vraiment les créateurs de ce clip, mais on a eu des belles discussions sur le morceau et sur l'univers. C'est ça que j'aime bien avec le fait de faire appel à des talents aussi qui ont une lecture et leur propre prisme. Du coup, on a eu vraiment des discussions au sujet de ce morceau, de la notion de chemin, le fait qu'il y ait comme ça un truc crescendo avec un instrumentarium qui se développe, une orchestration qui s'agrandit et qui fait qu'on est de plus en plus enveloppé aussi, avec aussi, je pense, des tonalités qui ne sont pas forcément que solaires, mais un petit peu aussi sombres aussi, quoi. Et eux, ça les a tout de suite, ça leur a parlé. Ils avaient vraiment, je pense, ils fonctionnent sur deux plans, quoi, un peu la partie technique et la partie artistique aussi. Donc, je pense qu'ils avaient un process technique en tête. Et du coup, ils se sont dit, ça pourrait bien coller de faire ça. Et je trouve que c'est super parce que c'est hyper poétique. J'aime beaucoup de toute façon ce qu'ils font, Fred et Annabelle, quoi.
Je rebondis du coup sur la question, parce que là tu as plutôt délégué la chose, même si tu as bien sûr droit de regard, j'imagine, sur le rendu final. Malgré tout, toi tu as beaucoup travaillé au service de l'image aussi, et puis même du spectacle vivant, il me semble, hein, au sens large. Comment tu appréhendes là aussi cette façon de travailler, où la musique ne suffit plus à elle-même, mais doit être au service d'un autre projet artistique?
Je trouve que c'est des discussions qu'on peut avoir entre nous, mais... Je pense que ce qui est intéressant quand tu découvres un artiste, c'est de découvrir un univers avec à la fois de l'image, du son, pourquoi pas des mouvements, du corps. Et nous, on s'est toujours vachement entouré parce qu'on a eu cette chance-là au départ de ne pas commencer à 18 ans, mais d'avoir eu aussi de s'être un peu challengé avant avec des choses qui n'étaient pas forcément des réussites, mais qui nous ont permis de créer comme ça un dispositif où on s'est tout de suite dit, tiens, la musique électronique, en fait, sur scène, c'est pas non plus hyper excitant, donc autant alimenter ces univers-là. Et donc c'est vrai que moi j'ai une sensibilité à l'image aussi, donc j'ai souvent participé soit à l'élaboration des clips ou ou à des fabrications de vidéos. Donc je pense que c'est un autre langage et qui est franchement, il faut vraiment passer beaucoup de temps pour bien le maîtriser. Donc je laisse volontairement à d'autres personnes, mais j'aime bien qu'il y ait ce dialogue-là, parce que bah, je trouve que quand on vient poser des images sur un morceau, c'est à double tranchant, et donc il y a vraiment un travail comme ça de justesse et de lisière. Quand j'ai bossé avec Christian Volkmann sur Sweet Shadows, bah, y avait un peu ce truc aussi où tout de suite lui ça lui a parlé. Donc enfin voilà, je trouve ça hyper hyper enrichissant. Et puis même c'est une créativité au sens large, quoi. Que ce soit sur scène, en image, en son, même travailler avec un ingé son qui va faire le mixage d'un album, bah, en fait c'est aussi une part créative, quoi.
J'ai une dernière petite question. Okay. Chez Pozo Live, on aime bien poser la question, si tu devais interviewer une autre personne de la programmation du Forestival, ça serait qui ?
Ah oui, alors... bah, en fait, là, j'ai un peu des copains, donc du coup...
Vas-y, fais
bah, en fait, je commence un peu à rencontrer... On a eu cette chance-là de se rencontrer par une amie, James, BKS. Que je commence à voir de plus en plus, et voilà, c'est un ami d'une amie, donc je trouve assez passionnant et assez, assez puissant sur scène, parce que je trouve qu'en ce moment c'est assez compliqué, l'espace scénique, avec toute la grande vague de rap et de trap et de drill, et parce que bah, en fait il y a un minimalisme qui pour moi est pas suffisant, enfin en tout cas qui est pas assez qui fait pas assez de propositions, et le fait de revenir à des vrais live bands où il se passe vraiment des choses sur scène, où les gens, bah voilà, ils ont bossé leurs instruments, ils ont bossé et ils viennent restituer ça sur scène. Je dis pas qu'en rap c'est pas le cas, parce qu'il y a aussi un taf énorme. Je dis juste qu'en fait moi ça me parle moins, parce que je voyage moins, en fait. Je voyage moins et je suis assez avide de performance aussi, donc. J'aime bien voir, bah voilà, j'ai vu le live de James à Marseille, j'ai pris une énorme claque, même le live de Simon de French 79, que je trouve aussi hyper, hyper carré, enfin la proposition elle est belle, il y a du visuel, il y a un vrai travail sur la setlist, et j'aime bien voir ça, donc voilà, si je devais interviewer, ce serait peut-être plus James, quoi.
Merci,
merci beaucoup.